France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, à mes côtés, un des maîtres de la chanson française, auteur d'une flopée de tubes que vous avez tous fredonné, Didier Barbelivien, publie un livre de souvenirs et revient sur son adolescence parisienne, ses premières chansons pour Christophe, Johnny, Gérard Lenormand. Mais il nous parle aussi de son amour de la littérature, des rencontres avec Aznavour, Ferré ou même Georges Auric. Didier Barbelivien en chanson dans Étonnez-moi Benoît. Et puisque cette semaine a été pour le moins difficile, je vous propose de nous changer un peu les idées en amoureux autour d'une bonne tasse de thé.
Je vous vois déjà chez nous, buvant du thé sur mes genoux, moi plein des bois, vous sentant tout à moi.
Ah, quel bonheur se sentir sans gêneur, tous les deux des années, soit la bonne, sans personne, à qui téléphoner, bien que nous vraiment seuls, bien seul.
Se lèvera entre vos bras, me trouvera
ce jour-là comme les autres jours, toujours.
Et finalement, certainement, comme nous aurons beaucoup d'enfants, voyez tous deux comme nous serons heureux.
Comme plus d'un amant, j'ai rêvé fréquemment d'un bel appartement. Jamais ne suis-je arrivé à pouvoir le trouver, l'appartement rêvé. Nous serons loin de la ville, un coin tranquille, meilleur marché. Là, quand nous serons nichés, on pourra nous chercher, nous saurons nous cacher.
Buvant du thé sur mes genoux,
avec du cake et des petits gâteaux sains.
Ah, quel bonheur se sentir sans gêneur, tous les deux des années, soit la bonne, sans personne à qui téléphoner, bien que nous verrons seuls, bien seuls.
Le petit jour me surprendra, vous préparant du chocolat.
Ce jour-là comme les autres jours, toujours.
Et finalement, certainement, comme nous serons beaucoup d'enfants, voyez tous deux car nous serons heureux.
Vrai, je trouve en le jugeant que ce plan diligent est des plus engageants.
C'est comme vous le devinez, pour vous déterminer, que je l'ai combiné.
Je trouve tout admirable, mais raisonnable, à votre tour. Veuillez bien attendre pour abriter notre amour, que j'ai choisi mon jour.
Je vous vois déjà chez nous, buvant du thé sur mes genoux, moi plein des mois, sentant tout à moi.
À quel bonheur se sentir sans gêneur, tous les deux des années, sans la bonne, sans personne, à qui téléphoner, bien que nous vraiment seuls, bien seuls.
Le jour qui se lèvera entre vos bras me trouvera,
ce jour-là comme les autres jours, toujours.
Voyez tous deux, comme nous serons heureux.
Les voix de Liliane Berton et Guy Fontanière dans cette célèbre opérette américaine de Vincent Humans, No No Nanette, une œuvre de 1925. Il faut dire que le thème du thé et de l'amour était très à la mode dans les opérettes de ces années 20, puisque 4 ans plus tard, c'est le grand Franz Lehár qui écrivait dans Le Pays du Sourire ce fameux duo intitulé Prendre le thé à deux.
Ich bin beglückt, wenn ich sie seh. Und bess
besser schmeckt mir noch als Sekt dein Tätschen viel.
In dem Aroma liegt der weiche Mut.
Aus meinem Heimatland so wunderbar.
Und mischt sich mit dem Leben wieder Luft.
Und mit dem süßen Duft von ihrem Haar. Bei einem Tee am See, in der ich süßer nehme, wie ist das fein? Aus dem tiefen weißen Rohr steigt ein duftig zarter Haar.
Wir sind
allein, wie ein liebes Pärchen, Prinz und Märchen viel.
Prinz und Märchen viel.
Bei einem Tief von See.
La version originale en allemand, où on garde quand même l'expression française à deux, hein. Le thé à deux, donc chanté par Richard Tauber et Vera Schwartz dans l'opérette de Franz Lehár, Le pays du sourire. Le grand Tony Murena avec l'excellent Michel Ramos dans ce duo piano-accordéon intitulé Étude Swing.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et je crois que la question ne se pose pas. Vous avez tous fredonné ces tubes. Michel, il tape sur des bambous. On va s'aimer. Mademoiselle chante le blues. Et j'en passe, et j'en passe. Le mieux, c'est de le laisser nous en parler directement, puisqu'il sort à la fois une anthologie discographique et un livre intitulé « Pleure pas, nostalgie ». J'accueille ce matin Didier Barbelivien.
L'automne sur le par monceaux, les fleurs avec les oiseaux, les gens et les manèges d'hier. Bonnaret fait son piano, les chansons de Julien Clerc, j'espère qu'elles savent encore te plaire. Le temps est passé comme il peut, mis de la neige dans mes cheveux. I don't care. Un garçon prend des photos d'une jeune fille en vélo. C'est toi, des années en arrière. Elles sont loin les mantalots, comme les pigeons de Douaneau. J'ai froid dans mon vieux pull-over. Le temps est passé comme il pleut. Demain je serai bientôt vieux. I don't care.
Bonjour Didier Barbelivien.
Bonjour Benoît.
Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et puis alors, j'avais plein de raisons de commencer avec cette chanson. Ça vous convient comme choix ?
Ah, tout à fait. Elle a le parfum de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band de ma jeunesse. Et de toute façon, je l'ai enregistrée à cause de ça.
Voilà, récemment, c'est une chanson de 2018, je crois.
Ouais.
D'abord, vous rendez hommage à quelqu'un que j'aimais bien, qui est venu souvent ici dans cette chanson. Vous le dites, à Gonzague Saint-Brice, c'était un de vos amis ?
Oui, c'est vrai. C'était comme un visiteur du soir. C'est-à-dire que Gonzague passait au studio chez moi, au studio d'enregistrement, un peu comme quand il en avait envie. Tout d'un coup, ça sonnait. Je me disais, mais j'ai rendez-vous avec personne. Qui c'est qui sonne ? C'était Gonzague qui venait prendre un peu le parfum du studio, me dire qu'est-ce que t'enregistres en ce moment. Voilà, il nous rendait visite régulièrement. C'était un compagnon de voisinage assez merveilleux.
Voilà, et puis bon, alors le titre, Le temps est passé comme il peut, une chanson, oui, pleine de, on peut dire, de nostalgie quand même, parce que c'est beau la nostalgie.
Ouais, enfin moi j'aime ça, puis surtout ça me rappelle bon, l'endroit où j'ai passé toute ma jeunesse, le parc Monceau.
Voilà, qui est le fil conducteur presque, on peut dire, du livre que vous venez d'écrire.
Oui, 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 complètement. Parce que j'y vis toujours aujourd'hui. J'ai toujours tourné autour des Batignolles, de la place de l'Europe, de la place des Ternes. Enfin, je peux pas m'éloigner trop. Je veux bien aller faire le gamin et le guignol dans des quartiers limitrophes, mais pas plus.
Et votre adolescence, votre naissance d'artiste, ça se cristallise vraiment là, avec les copains et les copines
d'ailleurs
aussi. Oui,
parce que c'est mes premiers copains où on se met à faire de la musique ensemble. C'est l'année de mes 15 ans où je deviens très ami, plus qu'ami, c'est comme un frère avec Jean-Marc Roberts.
Voilà, l'écrivain,
qui
éditeur.
Qui deviendra écrivain, éditeur incroyable. Et bien sûr que c'est comme une fratrie ou comme une naissance. Alors je suis extrêmement attaché, évidemment, à cet endroit parce que souvent, on demande aux auteurs, aux écrivains de raconter leur enfance. Moi, vous avez vu, je parle jamais de mon enfance, ça n'a aucun intérêt.
Non, mais beaucoup de votre adolescence.
Mais énormément de mon adolescence, parce que moi, je suis né à la vie, entre guillemets, avec mon adolescence. Avant, j'étais un tube digestif. Voilà.
Et ça, vous le rendez très bien dans des très belles évocations de ce parc Monceau, dans le livre Pleure pas nostalgie, auquel on va revenir, bien sûr, et qui commence d'ailleurs, on peut dire, c'est un livre de salut à vos amis, à tous vos amis,
parce que
quelques-uns de vos amis.
Voilà, quelques-uns de mes amis, parce que j'ai voulu rendre hommage, bien même si j'aime pas cette expression, mais je sais pas, comme j'en connais pas d'autres, je me fais plaisir en les racontant de cette manière-là. C'est comme ça que je les aime et que je les connais.
Vous avez commencé par un qui n'était pas le plus proche, sans doute, à cause de l'âge simplement, qui était Aznavour, mais qui ouvre le livre.
Oui, j'ai commencé par Charles, parce que Charles, je le connais depuis longtemps, et il a toujours eu ce regard bienveillant sur moi et discret. Voilà. Et il faisait pas étalage de ses amitiés dans la presse et tout ça. Mais je sais qu'il gardait toujours un œil attentif depuis l'année où je l'ai rencontré sur tout ce que j'ai pu faire.
Et puis alors ensuite, vous évoquez Coluche, par exemple, qui est un ami proche. Et tout de suite après, Johnny, bien évidemment, pour qui vous avez écrit « Elle m'oublie » et beaucoup d'autres chansons.
Oui.
Mais ça m'a beaucoup amusé, le chapitre sur Johnny. Je le dis parce qu'on est sur France Musique, parce que dans ce chapitre, vous racontez que vous fumez un pétard avec Georges Auric, le compositeur, et Johnny Hallyday.
C'est la vérité, c'est quand on nous remet l'Oscar de la chanson française en 1978, on a rendez-vous au Train Bleu.
Au Train Bleu, à la Gare de Lyon.
À la Gare de Lyon, c'est là qu'a lieu le repas de cérémonie. Et on se tient bien avec Johnny pendant, on va dire, 1h30, 2h.
Oui.
On boit de l'eau, on fume un peu trop, parce que Johnny fumait tout le temps, même à table. Et puis un moment, je sais pas, le dessert arrive ou proche, et puis Johnny craque, il dit au président, président, si je roule un...
Parce qu'il était président de...
De la SACEM.
De la SACEM,
Georges
Auric, oui, c'est ça, oui.
C'est lui qui nous remet le prix. Et c'est la première année où on remettait le prix à l'auteur-compositeur, en l'occurrence moi.
L'Oscar du meilleur
auteur. L'Oscar de la chanson française, et on la remet également à Johnny Hallyday, parce que l'Académie considère qu'il le mérite autant que moi, ce qui était juste. Et là, Johnny décide de rouler au moment du dessert. Et moi, je me dis, non, putain, c'est dommage, on avait bonne réputation, on était bien là. Et puis, je vois Georges Auric sourire, et Johnny un peu quand même, parce que Johnny était pas du tout un provocateur comme on pouvait imaginer, c'était quelqu'un de
poli, et de...
poli très bien élevé et tout ça. Et il dit, président, je peux vous demander la permission et tout ça. Le président regarde et dit, mais qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Alors Johnny, discret, il dit, je crois que c'est du hashish et machin. Et il dit, ah bon, vous en êtes seulement là? Oh, vous auriez dû essayer l'opium. Moi, je fumais de l'opium avec Jean Cocteau dans les années 30, c'était magnifique. En fait, je me disais, mon Dieu, Johnny Hallyday a trouvé plus barjot que lui pendant le déjeuner. Voilà.
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
Merci pour ce choix, Didier Barbelivien. Évidemment,
c'est une chanson sur le temps qui passe, mais visitée par Corneille.
Donc il y a une partie du texte qui est de Corneille.
Oui, hein, tous les couplets. Voilà. Enfin, Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, tout ça c'est Corneille. Et la chute, peut-être que je serai vieille, répond. On la doit à Tristan Bernard.
Et tout ça vient du Brassens.
Et ça vient du Brassens. Et moi j'adore les chansons qui parlent du temps qui passe. Et comme tous les gens qui écrivent, les poètes, les chanteurs, appelez ça comme vous voulez, tout le monde est fasciné par l'idée du temps qui passe.
Dans beaucoup de vos titres, d'ailleurs, il y a le mot
oui,
temps, j'ai remarqué.
Oui, moi j'aime bien l'idée, justement, d'avoir cet humour, ce détachement qu'avaient Corneille et Tristan Bernard associés, et que Brassens s'est empressé. Parce que Brassens a écrit des chansons très sensibles sur le temps qui passe, mais aussi des chansons très insolentes.
Et bien sûr,
et c'est ça
et c'est
que
le
j'aime
cas en l'occurrence. Mmh. Alors Brassens, il faut dire, on a l'impression que pour votre génération, ça passe souvent par la case Brassens. D'ailleurs, dans le chapitre sur Johnny Hallyday de votre livre,
mais
vous racontez
Johnny,
comment Johnny adorait Brassens
et
dans l'intimité, il chantait toutes ses chansons par cœur.
Pas toutes,
mais
disons qu'il en connaissait par cœur, il se trompait jamais.
Oui, c'est ça. Oui.
Non, alors qu'il connaissait pas ses propres chansons, Hallyday.
Mais quand vous étiez adolescent au Parc Monceau, à cet âge-là,
oui, ça...
vous écoutiez déjà Brassens ou vous
l'avez découvert plus tard?
Oh là là, c'était pas seulement
Brassens.
Les Beatles à ce moment-là.
Non, mais j'aimais...
Les deux.
Ma génération, on a eu cette chance de tout recevoir. C'est comme une bourrasque en pleine tronche. Et un mois, on avait l'album des Beatles. Après, on avait
Léo Ferré.
Oui, c'est ça. Le mois suivant, on avait un nouvel album de Brassens. Et après, c'était un album des Stones. Ouais. Après, c'était le Pink Floyd. Enfin, et Brassens, il fait partie de mon éducation, j'allais dire, religieuse. Oui, parce que on écoutait ça religieusement. Et chaque album était vraiment une découverte, un plaisir, quoi, un plaisir fou.
Vous l'avez pas connu pour le coup?
Ah non. Non, il est mort en 80.
Voilà, c'est peut-être un regret parce que on voit que voilà, vous aimez ces rencontres. Oui,
parce que je l'aimais beaucoup. Non, mais j'ai eu la chance d'en rencontrer d'autres.
D'autres qu'on va évoquer, bien sûr.
Pico, Nougaro.
En tout cas, avec tous ces ces influences, ces passions, ces découvertes de jeune homme, vous avez décidé à un moment donné d'étudier la musique. En fait, vous qui êtes devenu plus tard un si illustre parolier, vous avez étudié sérieusement la musique avec professeurs,
avec deux professeurs, les demoiselles Durand qui étaient les professeurs.
Les demoiselles Durand.
De Georges Van Paris. Non, mais
c'est pas mal.
C'est très sérieux. Oui. Non, mais j'ai pas l'air comme ça parce que j'en ai jamais fait état, mais. J'ai appris la musique classique.
Mais c'est la théorie qui vous intéressait, hein ?
J'aimais comprendre, c'est-à-dire j'aimais les arrangements, parce que moi, à l'âge où d'autres écoutaient, je sais pas, moi, Claude François et Johnny Hallyday, moi, je me tapais les opéras de Monteverdi. Alors, forcément, ça crée un peu
un décalage.
Et puis, j'apprenais à écrire la musique de manière technique et mathématique, comme elle est.
Voilà.
Par exemple, j'apprenais plus tard à mes congénères qu'on pouvait écrire une orchestration sur 7 clés. Parce que la musique comporte une clé de sol, 2 clés de fa, 4 clés d'ut. C'était pas courant pour un garçon de 15-16 ans de commencer à expliquer la musique comme ça, alors que je savais pas en jouer.
Voilà. Et néanmoins, c'est avec des paroles, parce que vous écriviez aussi déjà beaucoup, que
J'écrivais les deux, hein.
Voilà, vous écrivez.
D'entrée de jeu. Seulement après, je croisais des compositeurs dont je me disais qu'ils étaient meilleurs que moi.
Voilà.
Donc je leur ai dit, en fait, je suis parolier. J'avais jamais été parolier. En dehors d'écrire mes propres petites chansons à moi. Et je me suis entraîné, par la force des choses, à écrire sur les musiques des autres. Et voilà comment on se fait une réputation d'auteur.
Avec, on peut dire, un parrain qui rappellera à certains auditeurs toute une époque de ce qu'on appelait un peu la chanson engagée, hein, qui était Karadec.
Jean-Michel Karadec, qui était un parrain comme un grand frère pour moi. Et qui m'a reçu, qui m'a porté
16 ans.
À 16 ans, qui m'a initié dans cette profession. Et à la fois, il était comme mon professeur de musique et c'est quelqu'un dont, de toute façon, je me forçais pas à aimer ses chansons parce que je les trouvais merveilleuses et aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui n'a pas vieilli, qui n'est pas démodé.
Et là, vous lui rendez un joli hommage d'ailleurs.
Je conseille toujours à tout le monde de s'acheter l'intégrale de Karadec parce que quand on parle de jeunes auteurs-compositeurs français, il reste un des jeunes auteurs-compositeurs français les plus étonnants.
Donc il vous fait entrer un petit peu dans le monde du disque,
Karadec,
et ça va vous conduire...
Parce que moi j'auditionne, je fais mes maquettes chez Polydor au-dessus de la place Clichy à l'époque.
Rue Cavalotti.
Voilà, rue Cavalotti.
Vue sur le cimetière,
c'était la vérité. Et je rencontre Maxime Le Forestier, Jean-Pierre Kernoa, Yves Duteil, Georges Moustaki, que j'adore.
Ouais.
Moustaki était un personnage, mais vraiment merveilleux. Voilà, moi je suis éduqué sous ces augures de bonnes chansons françaises, on va mettre ça dans les guillemets. Et après, pour transgresser, parce que je détestais qu'on me colle une étiquette, quelle que soit l'étiquette, et après je n'aurais de cesse que de vouloir devenir un auteur de variété.
Ouais.
Et donc j'écrirais dans tous les styles, tous les azimuts, alors qu'évidemment, mes admirations et mes préférences vont vers ces équipes de gens qui sont extrêmement talentueux. C'est Karadec qui m'emmène la première fois voir un chanteur sur scène, et je vais voir qui ? Claude Nougaro.
Ouais.
C'est-à-dire la leçon de français absolu, le génie, parce que Nougaro était un génie, reste un génie. Et voilà comment commence mon initiation. Ouais.
Mais un de vos premiers succès qui arrive alors très vite et très jeune aussi, et ben c'est cette chanson que je crois vous aimez toujours pour Gérard Lenormand, Et moi je chante.
Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois, Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigts. Je vois un chien mourir d'avoir voulu suivre mes pas. Je vois l'hiver sourire aux années bleues de l'au-delà. J'entends tomber la pluie dans le jardin des magiciens. J'entends des symphonies jouer parmi les musiciens. J'entends un oiseau gris hurler au vent dans le lointain. J'entends pleurer la vie dans ma mémoire sans lendemain. Je vois couler des villes au milieu d'océans cachés. Je vois des yeux qui brillent au silence des grands rochers. Je vois un jeu de quilles que je ne peux pas faire tomber. Je vois une petite fille ensevelie au miroir des années. Et moi, je chante, je chante. Je ne sais faire que ça, je chante. De tout mon désespoir, je chante. Je suis heureux. Et moi, je chante, je chante, je chante. Je ne sais faire que ça, je chante. De tout mon désespoir, je chante. Je suis heureux. J'entends tomber la pluie dans le jardin des magiciens. J'entends des symphonies jouer parmi les musiciens. J'entends un oiseau gris hurler au vent dans le lointain. J'entends pleurer la vie dans ma mémoire sans lendemain. J'entends un vieux tambour sonner la charge des statues. J'entends un cri d'amour que je n'ai jamais reconnu. J'entends les derniers jours frapper à mort ma tête nue. J'entends un troubadour chanter le temps qui ne reviendra plus. Et moi, je chante, je chante, je chante. Je ne sais faire que ça, je chante. De tout mon désespoir, je chante. Je suis heureux. Je chante, je chante, je chante. Je chante, je chante. Je chante, je chante, je chante. Je ne sais faire que ça, je chante. De tout mon désespoir, je chante.
...1975, Gérard Lenormand, vous êtes tout jeune et vous devenez déjà une vedette du monde de la chanson.
Oui, ça va aller
vous gagnez
très vite.
Très vite, beaucoup d'argent en
Exactement.
Plus, ce qui n'est pas désagréable, 77,
j'imagine. Je suis...
Didier Barbelivien.
En 77, c'est fou. Je suis déjà un peu un auteur pas recherché autant que Pierre Delanoë, que j'admire, ni Étienne Rodagil, que j'adore, mais...
Mais pas loin, oui.
Pas loin. Oui, puis c'est agréable parce que moi, je sors à peine du lycée, j'ai encore des copains à la fac. Et moi, je roule carrosse.
Voilà. Non, mais attendez, la même année, Petite fille du soleil avec Christophe. L'année suivante, Michel. Combien d'exemplaires Michel, mais c'était immense,
un immense tube
pour Gérard Lenormand. Et encore l'année d'après, c'est Éric Chardenne, Michel Thor, puis Johnny Hallyday. Enfin, tout de suite,
oui,
ça,
puis
ça
là,
démarre.
Je vois que vous avez des renseignements sur ma bio, mais qui sont. Il ne cite que quelques titres comme
bien
ça.
Bien sûr, bien sûr.
J'en ai écrit dans ces années-là. Je me souviens de ma première feuille d'impôt. Je me disais, mais c'est pas possible. Ouais. Mais ça va, j'étais pas un type qui était obsédé par le matérialisme. Donc, je gagnais énormément d'argent, mais énormément.
Ça vous a paru, disons, aussi normal que de pas en gagner avant.
Exactement. Et surtout, j'en dépensais pas tant que ça.
Voilà.
Parce que je m'en foutais. J'avais été tellement restreint avant.
Ouais.
Que l'idée, par exemple, de m'acheter 3 jeans dans le mois me laissait KO debout. Et je me disais, je peux aller m'acheter des chaussures quand je veux, descendre la rue de Rome et rentrer m'acheter une guitare par mois, si je veux, chez les luthiers. Et voilà, et ça changeait rien à ma vie.
Ben non, j'imagine. Mais évidemment, tout de suite, vous avez été par contre très, très demandé par toutes les vedettes de l'époque.
Ouais, ouais, ouais.
Et vous parliez tout à l'heure du mot variété que moi j'aime bien parce que ce que je trouve aussi, c'est que vous avez vraiment tout de suite fait revivre quelque chose de la tradition de la chanson populaire française des années 70 que vous avez continué et fait revivre.
J'avais piqué ce terme, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, auteur de variété.
Vous n'avez pas cherché à faire du rock?
Non, mais j'adorais la manière dont Léo Ferré l'avait détourné en disant « On pourrait me reprocher de parler avec des mots qu'on pourrait dire politiques, mais ça n'est qu'une variété de la politique. Et moi, on ne peut pas me reprocher de traiter de variété, moi qui ne suis qu'un artiste de variété.
Ouais, »
Et il avait fait une pirouette, et voilà. Et moi, après, je me suis revendiqué de ça d'abord parce que j'aimais bien cette façon de réagir de Léo, qui était mon ami, et j'aimais bien l'idée de dire, voilà, dans le mot variété, il y a le mot varié. Ouais, donc moi, ce que j'aime, c'est être varié. Ouais. Sinon, je m'emmerde. Ouais. Si je dois écrire toujours dans le même sens, dans le même style, avec les mêmes gens, j'ai dit, en 30 chansons, j'aurais vite tout raconté de ce que j'ai à dire. Or, j'adorais intégrer des univers qui n'étaient pas du tout les miens, parce que c'était comme partir en vacances.
Mais en même temps, je trouve, oui, aussi de retrouver un certain format, une couleur qui est propre à la chanson française et qui n'existe pas ailleurs d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous vous intéressiez aussi, d'ailleurs, à la façon dont tout ça a été coloré, justement, par les arrangeurs, comme ici Gabriel Yared, etc.
Mais moi, j'étais un Mickey quand je me présentais devant les arrangeurs, parce que j'étais feignant, donc je ne préparais pas des grandes maquettes de mes chansons. Ça me faisait marrer d'arriver avec ma guitare sèche, de jouer mon truc et de voir comment ils allaient m'opérer, tout ça. Je faisais aucun effort, moi. Je jouais ma chanson comme elle était. Alors, des artistes l'adoraient, mais je refaisais pas mes chansons. Je me souviens de mecs à qui on faisait refaire. Non, non, moi, je montrais mon titre. Et si ça plaisait, tant mieux. Ça plaisait pas, bah, comme disait Renaud, on la remet dans la culotte et une prochaine fois.
Alors, ça, c'était vos débuts d'auteur-compositeur, aussi également d'un certain nombre de titres, d'ailleurs, hein, depuis vos débuts, comme vous l'avez dit. Ensuite, il y a vos débuts de succès de chanteur, en tout cas, qui arrivent un peu plus tard.
Hein. Ah oui, parce que c'est pas quelque chose que j'ambitionnais de faire.
Ouais.
J'adorais l'anonymat, j'adorais la vie que j'avais. Après, c'est mon copain Jean Albertini, qui était vraiment mon alter ego, qui s'est mis en tête de me faire chanter. Il m'a dit vraiment, t'as une jolie voix, tu chantes bien. Moi, ça me semblait, j'avais pas envie de faire ça. Puis finalement, on a enregistré, on a eu un énormément de succès avec la chanson Elle.
Ben voilà.
Je me suis pris au jeu, mais pas trop. Je suis pas quelqu'un qui a fait une carrière d'artiste-interprète très assidue.
Non, ça a été pour votre plaisir peut-être.
Voilà, et j'aime bien ça.
Elle a la peau couleur du soleil, elle a le secret des abeilles, elle sait comment faire les enfants. Elle, c'est un avion blanc dans le ciel, elle a déjà brûlé ses ailes, elle est née dans un ouragan. Elle, je l'ai croquée comme une pomme, elle n'en veut parler à personne, elle a les yeux de l'océan. Elle, moitié Venise et moitié Rome, elle a déjà aimé des hommes, elle a le cœur comme un diamant. Elle, c'est un loup, une tourterelle, c'est un animal étonnant. Moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant, c'est une lady, lady elle, c'est une femme tout simplement. Elle, je connais ses châteaux de paille, elle a grandi à la campagne, elle a le sourire de ses gens. Elle, dans toutes les soirées de la ville, elle a le feeling et le style, elle fait tout ça naturellement. Elle, c'est un loup, une tourterelle, c'est un animal étonnant. Elle, moitié velours, moitié dentelle, toujours cruelle et cependant, C'est une lady, lady, elle. C'est une femme tout simplement.
Voilà, une belle chanson que tout le monde connaît évidemment. Vous me disiez, pendant qu'on l'écoutait, Didier Barbelivien, que voilà, il y a très peu d'arrangements, c'est assez dépouillé avec une guitare, mais quand même, c'est pas n'importe quelle guitare, il y a vraiment une couleur dans cette chanson.
Il y a deux douze cordes.
Deux douze cordes.
On a flangé. Flangé veut dire, distordre un peu le son.
Oui. Légèrement désaccordé.
Et c'est pas facile. C'est l'ingénieur Dominique Poncet qui avait fait ça à l'époque. Et c'est pas facile à faire parce que faut pas rater son coup, ça devient vite. Un crin-crin, un truc inaudible ça. C'est pas facile à faire. Oui, c'est Guy Matteoni qui avait écrit l'arrangement de tout ça.
Voilà, avec un peu de corde qui entre après, mais assez
voilà,
discrète.
C'était vraiment très simpliste, hein, très simple. Et voilà. Ça a été un très, très gros succès de l'année 80. Ça.
Ouais, mais il y a une atmosphère, comme dirait l'autre. Hein,
ouais, c'est pas... ouais. Mais ça reste une chanson que j'ai grand plaisir à interpréter sur scène.
Et je signale que dans votre livre, qui est de fait constitué surtout de portraits d'amis, de portraits d'artistes, vous ne manquez jamais, Didier Barbelivien, de rendre hommage à tous ces gens du métier, par exemple, que le grand public connaît pas forcément très bien. Bernard Estardi, que vous évoquez beaucoup dans ce livre.
Hein. Bah Bernard, oui, enfin, heureusement que je l'évoque.
Parmi d'autres, de ceux qui font la magie des studios d'enregistrement.
Tout à l'heure, on écoutait « Moi, je chante » de Gérard Lenormand. Ouais. Ça a été enregistré chez Bernard Estardi, c'est Gabriel Yared qu'on a fait l'arrangement. Et... moi, j'avais 20 ans, 21 ans à l'époque, donc je découvrais
le studio
et la magie de ces gens. Ouais. L'incroyable talent de ces preneurs de son, de ces arrangeurs. Et Bernard Estardi, je peux le dire, c'était un génie, un vrai génie du son, un ingénieur et un arrangeur, un génie.
Et vous disiez que quand vous arriviez avec votre chanson, vous aviez votre chanson, vous ne la refaisiez pas 36 fois, mais par contre, vous suiviez la fabrication après du titre avec beaucoup de plaisir. Vous aimez studio, quoi.
Ah oui, 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 j'aimais ça. D'abord parce que j'en rêvais quand j'étais adolescent.
Ouais.
J'adorais. Alors au début, je mouffetais pas. Je m'asseyais sur le canapé. Je me disais, je ne vais pas la ramener en disant peut-être que la base devrait faire ci, faire ça, alors que je savais parfaitement faire tout ça, puisque je l'ai fait bien après. Mais on m'avait expliqué que chez Estardi, fallait s'asseoir et la boucler pendant les premières années. Et qu'après, on passait du canapé à une petite chaise près de la console. Et après, on passait de la petite chaise près de la console à carrément le fauteuil près de Bernard Estardi.
Ah oui, il y avait toute une progression comme ça.
Et là, on avait droit à commencer à tripoter les boutons, mais léger, hein, moyen. Parce qu'il ne laissait pas tout le monde toucher... à la console. Je me souviens, Claude François avait le droit, Julien Clerc, Didier Barbelivien, Gérard Manset, mais on n'était pas nombreux à avoir le droit de mettre les mains là-dessus.
Voilà, ça c'est les choses, en tout cas de la fabrication dont vous parlez toujours avec beaucoup de plaisir et d'esprit. Je signale aussi par exemple que vous écrivez toujours aujourd'hui, en 2020, sur des cahiers Claire Fontaine. Je ne sais pas la publicité, mais le fait est que c'est une très jolie marque.
C'est la vérité.
Et donc c'est voilà, vous écrivez à la main, vous ne savez pas utiliser un
ordinateur.
Je vais
même vous dire pourquoi j'écrivais sur des cahiers comme ça. Ouais. Parce que quand j'étais ado, même pas, j'avais 12-13 ans, comme j'adorais les vieilles chansons françaises et qu'il y en avait une qui s'appelait « À la Claire Fontaine, m'en allant promener, nanana ».
Oui, bien sûr.
Eh ben, je suis allé directos sur les cahiers Claire Fontaine et je n'ai jamais changé de marque.
Vous n'avez jamais changé.
Non,
hein.
Non.
Voilà, vous variez parfois la couleur de la couverture.
La couleur de la couverture, oui. Même la taille. Il y a des trucs à spirale, il y a des trucs aux pages reliées, il y a des trucs à pages blanches. Oui, oui, ça je varie, mais non, j'écris toujours sur les cahiers.
Vous avez dit aussi à quelqu'un qui vous demandait combien de temps il faut pour faire une chanson, vous avez répondu 10 minutes ou 10 ans.
Oui, c'est un peu une formule.
C'est une formule.
Mais le vrai timing, c'est une heure. Moi, j'écris en une heure, jamais plus. Et parce que sinon, c'est que je rame et que j'y arrive pas, donc je la fous à la poubelle directe. Mais c'est vrai que je peux penser à des chansons pendant 10 ans, avant de l'écrire.
Avant de l'écrire, voilà. Mmh. Ben oui.
Ces derniers temps, on m'a suggéré des trucs. J'ai des chansons dans la tête que je n'écris pas. Tous les matins, j'y pense. Puis un matin...
Ça y est, c'est prêt.
Je m'enferme, c'est prêt.
Il tape sur des bambous, c'est venu comment ?
Comme ça. C'est-à-dire, j'ai vécu longtemps avec la chanson, dans ma voiture, c'était une cassette, c'était une musique de Michel Héron. Philippe Laville attendait désespérément le texte. Et moi, je faisais croire que je l'avais écrit. Comme un peu comme quand on rendait ses devoirs le dimanche soir. Enfin, on faisait la rédac au dernier moment. Et là, je disais à Laville, je suis prêt, je suis prêt. Mais le texte ne venait jamais. Et un jour, pouf, me suis réparé toujours Porte Dauphine. Là, j'ai l'éclair, le machin. Je me dis, oh, faut que je rentre à la maison et que je l'écrive. Et je l'ai fait comme ça.
Il vit sa vie au bord de l'eau, coco et coquillage. $1 pour prendre en photo son plus beau tatouage. Il vit sa vie comme un vendredi, Robinson est parti. Tu le verras toujours bien dans sa peau quand il prend ce tempo. Il tape sur des bambous et ses numéros. Dans son île on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque il a du copain. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Il tape sur des bambous, il joue pas les requins.
Tahiti, Tuamotu, Équateur, Méridien. Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien.
Y'a des filles de partout qui lui veulent du bien.
Lui la gloire il s'en fout et ça va, ça vient.
Comme les bleus transparents des aurores marginales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal, aigu comme un diamant, traversant le cristal, le regard inquiétant d'un loup de carnaval. Tout ce qu'il y a d'amour et d'envie qu'on enferme, s'est libéré un jour pour lui donner des cernes. Des volcans sont en elle, dévorant ses entrailles. Elle est terre, elle est ciel, tendresse et représailles. Comme l'appel des rivières dans un désert salé, elle a les yeux si clairs qu'on voudrait s'y noyer. Elle a des yeux si durs qu'on lit à livre ouvert ses romans d'aventure et ses récits de guerre. Comme les rouges déclinants des lueurs occidentales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal farouche et résigné, insolent et soumis à l'instant de griffer. Elle a ouvert son lit, elle est sortie armée du cerveau d'un démon, on ne sait quelle année. Au fond de quel bas-fond, les yeux encore brillants de tourments prophétiques, la marque dans le sang des délires sabbatiques. Au fil des longs sommeils, elle pleure tout en douceur et le premier soleil la sort des profondeurs. Son regard surprenant pénètre comme un glaive pendant que des torrents s'échappent de ses rêves.
Quelle voix, hein, ce cerveau, mais quelle...
Ah bah oui, je suis d'accord, Didier Barbelivien. Là, c'était en 83, juste avant Philippe Laville en 82, début des années 80, une succession de tubes que vous avez écrits qui est absolument insensé. On va d'ailleurs en écouter quelques autres, mais voilà, j'aime bien aussi Sardou, puis c'est un de vos grands amis.
Ouais, c'était étonnant comment il chantait sur scène et tout ça.
Ouais.
C'était, je me souviens des palais des sports entiers pendant des semaines et des semaines. Avec le Palais des Congrès à Paris, enfin bref. Et c'est drôle parce que là, on entend effectivement les deux faces de ce que j'ai été toute ma vie, c'est-à-dire un auteur pour ouais. Philippe Laville, là c'est ouais. moi qui ai écrit le texte, ouais. et dans la chanson de Sardou, on croit que c'est moi l'auteur, non, je suis le compositeur.
Le compositeur.
C'est Sardou et Delanoë les paroles.
Mais justement, d'ailleurs, je me demande, mais qu'est-ce qui fait que, selon une chanson, vous allez écrire ou les paroles, ou la musique, ou les deux, ou l'interpréter ou pas ?
Ben, je ne sais pas.
C'est comme ça.
J'ai toujours laissé faire le hasard et porter. Je me souviens montrant la musique de ça à Michel en lui disant, j'écoute, j'ai ça.
Ouais.
Si, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Et Michel me dit, non, franchement, c'est bien, fais-moi une cassette. Enfin, j'étais...
Ah, c'était les cassettes à ce
j'étais
moment-là.
Light, ouais. J'étais un type qui ne se posait pas de questions.
Alors, en tout cas, dans votre livre « Pleure pas nostalgie », vous parlez évidemment de votre amitié avec Sardou, mais ce qui m'a amusé d'une certaine façon, c'est que vous mettez dans un même chapitre vraiment deux artistes qu'on imagine vraiment aux antipodes, c'est-à-dire Julien Clerc et Michel Sardou.
Mais pas tant que ça, jeune homme. C'était le millésime 47. Ouais. Effectivement, il commence pas du tout dans le même registre.
Sardou, il avait un peu l'image du chanteur de droite, le franc, sa tête de mort, etc.
Et surtout l'image du réfractaire, c'est le mec qui chante les ricains, qui chante « Si j'avais un frère au Vietnam
».
Et Julien est le porte-parole des lycéens et étudiants de mai 68.
Voilà.
Et on se dit, ces mecs-là sont prêts à se foutre sur la gueule,
exactement.
Normalement. Mais pas du tout. Ils vont même suivre des trajectoires contraires, mais qui vont se croiser un jour. Parce qu'un jour, Julien devient un chanteur populaire et descend du piédestal de Rodagil.
Étienne Rodagil, bien sûr.
Et vient vers des chansons vraiment très, beaucoup plus accessibles
avec
au public.
Avec Dabadi et d'autres.
Au moment où Sardou fait le contraire. Ouais. Sardou, tout d'un coup, chante Le Surveillant Général, Danton. Il finira par chanter L'An 1000, Les Lacs du Connemara. Comme les musiques sont populaires, c'est Revaux, Jacques Revaux qui écrit ses chefs-d'œuvre. Tout le monde croit que Sardou, c'est facile. Mais non, ça l'est pas. Ça l'est pas du tout. C'est très intello, Sardou. Michel Sardou est un mec qui lit des
très
des
cultivé, livres c'est ce que vous dites dans le
qui
portrait
nous font
que,
mal à la tête,
de lui. Oui, c'est vrai.
Qui nous font très mal à la tête. Il est très curieux d'ésotérisme, d'histoire. C'est un type incollable en histoire. Non, c'est...
Vous n'êtes jamais fâché ?
Jamais.
Non, jamais, non. Parce qu'on dit toujours qu'il a aussi du caractère.
Non, il nous arrivait de nous éloigner, mais ouais. Fâché, jamais. Non. En ce moment, par exemple, on est dans une période éloignée. Mais comme de toute façon, on n'a pas à écrire ensemble, c'est pas très grave.
Et avec Julien Clerc ?
Mais moi, c'est un garçon pour qui je garde un énorme attachement. Et alors, avec Julien Clerc, c'est le contraire. Là, on est très close, comme disent les Anglais, parce que on écrit des chansons ensemble, et puis moi, je n'ai pas de peur ni de honte à le dire. J'ai toujours admiré, mais alors admiré au plus haut point, l'équipe Julien Clerc, Étienne Rodagil, Maurice Vallet. Ouais, ça, ouais. Pour moi, c'était un trio insensé de créateurs. Voilà.
Alors, je le disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup chez vous cet amour que vous avez aussi d'un certain style de ballade typique de la chanson française, mais vous avez aussi écrit des chansons beaucoup plus rythmées, enjouées, funky même. Je pensais notamment au succès énorme que vous avez eu avec Gilbert Montagnier.
Oui, parce que c'est, encore une fois, je découvrais une autre forme de musique. En l'occurrence, là, c'était des musiques de Gilbert. Ouais. Moi, là, je me contentais d'écrire les textes. Voilà, j'entrais dans une nouvelle cour de récréation. Moi, je crois que j'ai passé ma vie à enchaîner les cours de récré.
Bon, en tout cas, ça a bien marché.
On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer à brûler. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle voit les roues. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit.
Voilà, Barbelivien Soul, Barbelivien Blues avec ses chansons de Montagnier et de Patricia Cass, 1983-1988, deux succès énormes encore.
Ouais, je me souviens de Mademoiselle chante le blues, je m'étais inspiré d'un film qui retraçait la vie de Billie Holiday, qui s'appelait The Lady Sings the Blues. Et je me disais, c'est un titre, j'avais adoré le film, mais je me dis, c'est un titre que j'adore. Et quand on parle de chansons qui ressurgissent des années plus tard, j'ai vu ce film, The Lady Sings the Blues, dans les années 70. Ouais. Et la chanson, mais s'est imposé à moi dans les années 80. C'est bizarre. Hein.
Et vous avez, on peut dire, lancé Patricia Cass, ou contribué à la lancer.
Inventé, en tout cas, voilà. Inventé, je
pas, inventé même carrément.
On peut même pas dire lancé. Avec François Bernheim, on a...
Autre personnage de la chanson, un peu de l'ombre pour le grand public, que vous saluez beaucoup dans votre livre, François Bernheim,
ouais,
d'ailleurs.
Oui, avec qui j'ai adoré écrire et travailler, bien sûr.
Qui était qui exactement? Qui était dans ce métier?
Qui était un compositeur, qui était un auteur-compositeur. Il pouvait écrire aussi bien les paroles que la musique. Et on s'en privait pas, tous les deux, ensemble.
Est-ce que, on vient d'entendre Patricia Cass, j'aurais pu passer aussi Karen Cheryl, mais est-ce que vous êtes plutôt quand même, quand on voit votre catalogue, un auteur, compositeur, un auteur surtout de chansons pour hommes, plus
J'ai
que pour femmes?
Plutôt, ah oui, voilà, un auteur, comment dire, pour la mode masculine, mais j'avoue que la schizophrénie agréable qui s'empare de moi quand je décide de devenir Karen Cheryl, Sylvie Vartan, Dalida ou Céline Dion me plaît beaucoup.
Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est la variété encore.
Encore, voilà, c'est encore une autre histoire.
Dans votre livre, alors on revient un petit peu à Pleure pas la nostalgie, Didier Barbelivien. Donc il y a quantité de portraits qui m'ont vraiment réjoui. D'abord des artistes, par exemple, qui sont plus à la mode et que moi j'adore et que je comprends pas qu'on les méprise un peu trop de nos jours. Par exemple, comme Gilbert Bécaud, pour qui vous avez d'ailleurs écrit des chansons.
Ah, Bécaud.
C'est un grand, un très grand.
Hein, ah, c'est un personnage formidable. Ouais. De l'égal d'Aznavour, sauf que Gilbert, c'était autre chose. Gilbert n'écrivait pas les textes. Donc, le public avait moins d'attachement. Gilbert, il chantait Delanoë, voilà. Louis Amad, Maurice Vidalin, oui. Tandis que Charles, il nous laissait des chefs-d'œuvre, oui. Words and Music by Charles Aznavour.
Et comme Ferré, comme Brassens, voilà, c'est
des
comme
trucs inoubliables.
Traîner, oui,
voilà,
oui.
Des trucs de fou, des chansons.
Vous racontez également votre rencontre. Alors là, c'est un chapitre très drôle et très passionnant avec votre idole, peut-être d'adolescence, parmi d'autres, c'est Léo Ferré.
Ah oui, Léo, alors, c'était, Léo Ferré, très particulier parce que...
C'est un personnage plus complexe, en tout cas, que la figure
complexe,
de la nar, du chanteur un peu engagé,
pas,
etc.
Léo était
j'adore
fascinant.
Cette phrase, quand vous arrivez chez lui, qu'il vous dit en premier, en Italie, « Bienvenue dans la maison de l'anarchiste. Ici, on dîne à 9h moins le quart, pas 9h. » Ce qui, pour un anarchiste, est quand même assez gratiné.
Mais c'était ça qui était génial, parce que Léo, c'était un auteur, un compositeur, un éditeur, tout ce que vous voulez, et un acteur.
Un acteur, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il était... extraordinaire dans la vie quotidienne parce qu'il avait son rôle, ses foucades, son truc à jouer. Et c'était un homme extrêmement attachant, extrêmement bien élevé, extrêmement érudit. Moi, je m'ennuyais pas. C'était encore aujourd'hui, il y a 6 mois, Anaïs, avec qui j'ai enregistré Les Mariés de Vendée, qui était ma compagne de l'époque, et qui m'avait accompagné dans ce séjour chez Léo Ferré,
en
Italie, en Toscane, me disait, tu sais, j'étais un peu bêtasse à l'époque, je ne me suis pas rendu compte de la chance que j'avais de passer ces journées auprès de Léo. Elle me dit, je me souviens de lui, c'était un homme merveilleux. Et c'est vrai qu'on était dans une bulle hors du temps et on côtoyait un génie, c'est-à-dire... Guillaume Apollinaire, quoi, parce que Ferré sera un jour étudié dans les livres d'école, dans la rubrique
Poésie,
les poètes du XXe siècle. Ouais. C'est évident.
Avec plein d'inattendus aussi chez ce personnage. Il adore Marilyn Monroe, par exemple. J'aurais pas pensé ça de Ferré. Et quand il va au spectacle, il va pas écouter des chanteurs à texte. Il va voir Thierry Leluron et Fernand Reynaud.
C'est génial. Non mais moi, il me laissait tout le temps sur le cul parce que. Il était tellement surprenant, tellement là où on l'attendait jamais, que on s'ennuyait jamais.
Sans parler de votre déjeuner à la Audiard chez André Pousse, qui avait son restaurant Napoléon Chex, pas très
Napoléon
très loin d'ici.
Voilà, c'est des moments d'anthologie, ça. C'est voilà. Rien que pour ça, je remercie le ciel de m'avoir donné la possibilité d'être dans cette profession.
À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à leur torrent de charme. je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants, aux lettres déchirées, à leurs baisers volés, je suis resté adolescent. Elle savait, des océans au fond des yeux. Elle dansait, pour nous garder plus amoureux. Elle disait, que l'amour c'est toute une vie à deux. Elle savait, dans un sourire moqueur, quelque chose de secret, elle gravait.
Encore un immense succès de Didier Barbelivien en duo avec Félix Gray, qui est alors un chanteur un peu plus jeune que vous.
Mais et
vous
même avez... en trio avec Anaïs, parce que la voix féminine qui fait les océans au fond des yeux, c'est la voix d'Anaïs, avec qui j'enregistrerai plus tard Les Mariés de Vendée.
Les Mariés de Vendée. Mmh. D'abord, cette chanson était aussi un grand succès, mais ça vous avez l'habitude, mais ça m'amuse aussi parce qu'elle nous amène aussi à dire quelques mots de votre grand ami Julio. Oui. Iglesias, qui a un rapport avec cette chanson, me semble-t-il, puisque c'est
un rapport avec duo. À toutes les filles, non, qui a un rapport, parce qu'il chantait ça, To All the Girls I Loved Before, avec Willie Nelson aux États-Unis.
Voilà.
Et Julio me dit, parce que bon, là, on, il faudrait que je vous fasse un chapitre sur Julio aux États-Unis. Et,
c'est un grand ami, hein?
Plus que ça, oui. Le moment où il m'emmène avec lui en tournée là-bas. Non, mais ça reste des souvenirs exceptionnels.
Ouais.
Et c'est grâce à Julio, si finalement je chante sur scène, parce que c'est lui un jour qui m'a poussé à le faire.
Oui, c'est ça.
Ouais. Moi, j'aimais bien enregistrer en studio. J'ai commencé à chanter sur scène, tenez-vous bien, j'avais 57 ans.
Ah oui. Et vous y avez pris du plaisir?
J'en prends toujours.
Toujours. Presque autant qu'en studio.
Peut-être même plus.
Peut-être même plus, papa.
Regardez, vous m'avez dit à un moment, on va entendre une chanson de vous qui s'appelle « Jean de France ».
Ouais.
Bon, Jean de France,
la prochaine, d'ailleurs.
Voilà, a un succès sur scène complètement dément.
Ouais.
C'est la chanson que je chante qui a le plus de succès sur scène, plus qu'à toutes les filles, plus que elle, plus que les mariés de Vendée, plus que n'importe quoi. Et ça me met en joie parce que c'est une chanson qui rend hommage à un immense artiste que j'ai aimé à la folie, qui s'appelait Jean Ferrat.
Bien sûr, qui n'est pas dans votre livre.
Non, qui n'est
c'est
pas dans mon
livre,
je vais vous dire pourquoi. Non, parce que figurez-vous que je ne le connaissais pas.
Ah oui.
Je l'ai croisé deux fois en studio,
ouais.
Au restaurant, puisqu'on déjeunait dans le restaurant proche. Et c'est un homme qui avait une timidité comme ça, et moi aussi. Et je n'ai jamais osé l'aborder, lui dire à quel point je l'admirais. Je suis très fier d'avoir écrit cette chanson après, en me disant, voilà, peut-être... pour tous les fans de Ferrat.
Ouais.
Et puis surtout, j'aimais bien aussi alors, le a contrario.
Ouais.
C'est-à-dire tout d'un coup, Barbelivien, l'ami de Sarkozy, qui rend un hommage à Jean Ferrat, un chanteur proche du Parti communiste. Tout ça me plaisait
mais
beaucoup.
Mais en même temps, en l'appelant Jean de France, parce que vous aimez bien
exprès.
La France, et
non,
que
puis j'aime bien
et
la
les
provoque.
Gens de gauche de l'époque, souvent, n'aimaient
ouais,
pas mais... le côté franchouillard. On disait que la France, c'était franchouillard, et vous vous revendiquez
mais
votre
ouais,
amour
que...
de la France. D'une
mais oui,
façon,
mais comme
dans
lui,
chansons.
Il la revendiquait aussi, parce que je vous rappelle que sa chanson « Ma France », qui a été interdite en 1969, reste un pur chef-d'œuvre d'écriture. Chanson magnifique.
Et votre France littéraire, alors elle est aussi, elle passe par des écrivains, j'imagine. Vous avez cité Apollinaire, tout ça.
Par tous les grands écrivains. Dès que j'étais en âge de comprendre la lecture, moi j'aimais Aragon, j'aimais Eugène Fromentin, qui est un écrivain du 19e, pas forcément connu,
non,
qui est le fondateur pour moi du romantisme français.
Vous lisez beaucoup?
Je lis énormément, je lis trois livres par semaine.
Vous en avez écrit quelques-uns, mais pas tant que ça, alors que vous avez écrit des milliers
non,
de chansons.
Non, mais maintenant, je vais en écrire.
Ah, ça y est, d'accord.
Si Dieu me prête vie, je vais me mettre à écrire des livres.
C'est la prochaine étape.
Ouais,
vous avez dit quelque part que vos premiers romans étaient presque trop écrits, pas comme des chansons, mais presque trop... Voilà, c'était du beau style, c'était presque parler, chanter, vous les travailliez à voix haute, mais c'était peut-être pas encore exactement ce que vous vouliez atteindre dans le genre de roman.
Mes premiers romans, c'était pas ce que j'aimais lire, en tout cas.
Nous, on aime vous lire, en tout cas, parce que vous racontez bien. C'est vivant,
oui,
c'est coloré. C'est...
Non, mais c'est vrai que quand je l'ai relu, parce que je dis la vérité toujours, malheureusement ça m'a valu quelques déboires souvent, mais pleure pas nostalgie, j'ai relu les épreuves,
ouais,
et j'ai rendu à l'éditeur, j'ai eu le culot, la prétention de lui dire, c'est pas mal ce truc-là. Alors, quand je me souviens d'autres livres que je donnais à l'éditeur, je disais, oui, bon, tu t'es relu, ça te plaît, bon, pas tant que ça.
Mais ah bon, vous vous rendiez compte déjà, même au moment
mais
d'avoir...
j'ai la même vista pour mes chansons. Hein.
Ouais.
Il y a des chansons de moi, je disais, oh là là, on me disait, mais pourquoi tu le sors? Ben, je dis, c'est fait, c'est imprimé. C'est...
Après, on pourrait faire la liste aussi, comme pour tous les grands auteurs-compositeurs, de vos chansons que vous aimez, mais qui n'ont pas marché. Je suppose qu'il y en a aussi un certain nombre.
Ah, il y en a... Oui, oui, ouais. Oh, bah oui, j'ai fait plus de bides que de succès, heureusement.
Mais dont certaines qui l'auraient mérité, peut-être.
Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait de chefs-d'œuvre...
Inconnu.
Ni dans la chanson, ni dans la littérature.
J'aimais ton rire, j'aimais ta voix qui racontait nos différences. Moustache rapportée de Cuba, de Santiago, quelle importance. J'aimais tout ce qui était toi quand tu bousculais nos consciences. Jean Tannenbaum ou Jean Ferrat, tes mots déchiraient le silence. Et je m'imaginais Créteil quand tu me fredonnais ma môme. Et ces deux enfants au soleil, Garcia Lorca en son royaume. Moi j'écoutais Nuit et brouillard, enfermé dans mon innocence. Je comprendrai beaucoup plus tard, nul ne guérit de son enfance. Jean de France, tu chantais pour les gens de France, de la Bretagne à la Provence, avec la fierté et l'insolence de dire ce qu'on ne disait pas. Jean de France, humain jusqu'à la transparence, de ce regard qui fait confiance pour le secret des confidences, quand tu croisais les yeux des âmes. D'ailleurs, que serais-je sans toi? Et voilà Aragon qui danse. Même Ferré n'en revient pas de ces mélodies qui s'élancent. C'est Potemkin et Maria, unis dans la même souffrance. Mourir au soleil, ça me va. Mourir debout, quelle élégance. Jean de France, tu chantais pour les gens de France, de la montagne aux plaines immenses. Tu défendais tous ceux qui pensent que le malheur n'existe pas. Tu mettais le vide hors la loi du simple fait de ta présence. Un jour futur, un jour viendra, tout plutôt que l'indifférence. Et tes chansons de ce temps-là ont bercé mon adolescence. Un drapeau rouge au bout des bras, tous ces taureaux quand j'y repense. Jean de France, tu chantais pour les gens de France, de la Bretagne à la Provence, avec la fierté et l'insolence de dire ce qu'on ne disait pas. Jean de France, humain jusqu'à la transparence, de ce regard qui fait confiance pour le secret des confidences, quand tu croisais les yeux d'Elsa.
« Jean de France, c'était Didier Barbelivien dans sa chanson qu'il chante en hommage à Jean Ferrat. C'est une chanson relativement récente, 2011, hein,
ouais,
qui cartonne.
Oui, qui cartonne et qui parcourt en fait, qui est fabriquée avec beaucoup de titres de Jean Ferrat et beaucoup de sentiments de ma part aussi parce que c'était... Je me souviens quand j'avais 14-15 ans, mais qu'est-ce que je pouvais écouter les chansons de Ferrat. En plus, c'est un truc dont on parlait pas beaucoup chez lui. C'est un sublime chanteur.
Oui, c'est vrai.
Il avait une voix exceptionnelle.
Dans votre livre « Pleure pas, nostalgie » qui sort chez Albin Michel, Didier Barbelivien, vous faites également un certain nombre de portraits de non-chanteurs, mais qui sont plus ou moins venus avec vous à la chanson. Et il y a des scènes très drôles, notamment par exemple une scène qui pourrait figurer dans le film « Thalasso » de Gérard Depardieu.
Je vois à quoi vous faites allusion.
Avec Michel Houellebecq, mais sauf que là c'était avec vous,
ouais.
Dans une thalasso,
ouais.
Où vous mangez, vous fumez en douce, etc.
C'est-à-dire, c'est pas une thalasso, on est à la thalasso de Quiberon,
ouais.
Dans la salle où on ne peut ni boire ni fumer, et c'est hors de question de faire ça.
Ouais.
De l'autre côté de la thalasso, il y a un restaurant un peu normal, gastronomique, machin, mais là c'est...
Le menu est strict,
là,
vous
c'est
le détaillez,
vraiment le truc cure de désintox, et là j'ai la chance d'être avec Depardieu, avec Becco, avec d'autres amis, et là ce soir-là, Gérard a décidé de nous faire la totale, et... On n'a pas été déçus. C'est un génie de lui pareil. Mais quel mec immense, Depardieu. Quelquefois, je lis des critiques, des machins. Je me dis, mais comment on peut oser critiquer un comédien, un acteur, un personnage pareil? C'est comme ça.
Vous avez vu Thalasso?
Non.
Non?
Non, non.
C'est drôle.
Mais moi, j'ai vécu
Thalasso. Oui, vous l'avez vécu, voilà. Ouais. Il y a aussi des scènes assez drôles avec... vous emmenez aussi un peu vers la chanson, avec Belmondo.
Avec Jean-Paul, parce que Jean-Paul était un trublion du cinéma français sur les tournages. Moi, si j'avais été comédien, j'aurais voulu tourner. D'ailleurs, il emmenait ses amis.
Ouais.
Des gens comme Pierre Vernier, par exemple,
ouais.
Qui incarnait Rocambole dans un feuilleton dans les années 60. Et bien, qui était au conservatoire avec Jean-Paul. Jean-Paul l'imposait dans des films où il avait des petits rôles et tout ça. Mais tourner avec Belmondo, c'est juste merveilleux. C'est pas un tournage, c'est on est parti en grandes vacances avec un
une
comédien,
fantaisie,
avec
une liberté.
Ah, il est fou complet, est fou complet. Le public français ne se trompe pas quand il adoube un personnage comme Jean-Paul, comme Depardieu, comme Gabin, comme Delon, comme Devers, comme tous ces gens-là, c'est qu'ils ont un truc en plus. Lino Ventura, j'ai vécu des scènes avec Lino dans la vie, mais insensé.
Et puis alors, il y a les personnages que vous rencontrez très peu, mais ça donne quand même aussi des jolies scènes. C'est le cas, par exemple, de Barbara, parce que
Barbara,
c'est un coup de téléphone. Mais
il faut
raconter quand même ce que vous avez fait.
Oui,
voilà.
Dans une émission en hommage à Depardieu, je suis déguisé, qui était produit par Patrick Sébastien. Sébastien décide de rendre un hommage à Gérard, donc on fait une émission spéciale Gérard, dont moi déguisé en Barbara, puisque
Barbara
est son amie.
Voilà.
Je suis au piano.
Maquillé,
la robe noire, tout, la totale. Et au lieu de chanter sur une jolie chanson de Barbara, je chante avec la voix, je crois, de Sophie Darel, qui l'imite, Riri, Fifi, Loulou de Chantal Goya. Mais dans l'ambiance, je ne me rends pas compte de l'outrage, moi. Je suis au piano, je fais mon truc... Et le lendemain matin, à 10h du matin, le téléphone sonne, j'entends une voix « Bonjour, c'est Barbara ». Et moi, je suis dans le coma complet, je dis « Barbara qui ?» Elle me dit « Mais enfin, Barbara la chanteuse, voyons, oh là là !» Là, tout d'un coup, je suis réveillé, je me dis « Je vais passer un mauvais quart d'heure ». Et pas du tout, elle est charmante, elle me dit « J'ai vraiment beaucoup...
» Beaucoup ri.
Ri à votre imitation hier soir. Bien, elle me dit-elle, quand même, c'était un peu le reproche, que je vous préfère dans vos propres chansons. Mais vous m'avez bien amusé quand même.
Et
c'est tout.
C'est votre seule rencontre avec Barbara.
Non, après, elle m'a écrit pour me remercier d'avoir parlé des roses de Göttingen dans une chanson de Patricia Cass qui s'appelait D'Allemagne, où je faisais un... Vraiment une chanson en racontant l'histoire des deux Allemagnes, un peu comme elle qui, dans Göttingen, disait « S'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. »
Et Madame ?
Ah, Madame, c'est autre chose. C'est Madame, Quand on me demande quelquefois quelle chanson j'aurais aimé écrire, celle-là en fait partie parce que c'est un scénario, quoi. C'est un film, c'est d'une élégance. C'est une femme qui vient expliquer le décès à une autre de son fils. Et ces deux femmes, la mère et l'amante, se sont disputées cet homme longtemps. On le comprend dans la chanson. C'est absolument déchirant et c'est absolument merveilleux.
Je reçois à l'instant où je rentre chez moi votre missive bleue matin. 20 fois je la relis et mes yeux n'y croient pas, pourtant c'est écrit là. Madame, et de votre douleur je me sens pénétrée, mais je ne pourrai rien, madame. Vous savez aujourd'hui que de l'avoir perdue, c'est lourd à supporter, madame. Vous demandez pardon de n'avoir pas compris ce qu'était notre amour, madame. Vous n'aviez que ce fils, vous aviez peur pour lui, et vous l'avez gardé, madame. Ne me demandez pas ce qu'a été ma vie quand vous me l'avez pris, madame. Je me suis toujours tue, ce n'est pas aujourd'hui que je vous le dirai, madame. Vous eussiez préféré, je vous retrouve là, qu'il fût mort en héros, madame. Oui, c'eût été peut-être plus noble, je le crois, que de mourir d'amour, madame. Mais qu'il soit mort ici ou qu'il mourût là-bas, auriez-vous versé moins de larmes? Il en a décidé, lui seul avait le droit. Il faut vous résigner, madame. C'est trop tard maintenant pour que je vous revienne, et vous vieillirez seule, madame. Et ne m'en veuillez pas si je parais cruelle, mais je l'ai trop aimé, madame. Pour qu'à la fin du jour, près d'une cheminée, nous évoquions ensemble, madame, celui que vous et moi nous avons adoré et perdu tout ensemble, madame. Mais le chagrin m'égare, faut me pardonner, j'ai mal de votre mal, madame. Mais que faire et que dire puisqu'il s'en est allé? Je ne puis rien pour vous, madame. Pour la seconde fois, il va nous séparer, non? Je ne viendrai pas, madame, car le perdre de foi, ça lourd à supporter. Vous me comprendrez bien, madame. Je reçois un instant où je rentre chez moi votre missive bleue, madame. 20 fois je la relis, mais si vous n'y croyez pas, pourtant c'est écrit là, madame. Et de votre douleur je me sens pénétrée, mais je ne puis plus rien, madame. Vous saurez comme moi que de l'avoir perdu, c'est lourd à supporter.
Madame Barbara, merveilleuse
sublime,
chanson.
Sublime, sublime. Si je devais évoquer l'univers que provoquent les chansons, ouais, peut-être je choisirais cette chanson.
Pour l'illustrer, Didier Barbelivien, Barbara, c'est donc un des personnages très nombreux qu'on découvre, qu'on redécouvre, qu'on apprend à mieux connaître dans votre livre « Pleure pas, nostalgie », qui, je le disais tout à l'heure, commence au Parc Monceau. Vous nous l'avez dit, vous habitez toujours près du Parc Monceau. Entre-temps, vous avez beaucoup vécu à la campagne, notamment près de Montfort-l'Amaury. Vous aviez une tour
exact,
pour écrire
j'ai
vos chansons.
Vécu à Boissy-sans-Avoir.
Vous êtes revenu à Paris, finalement.
J'ai eu une maison de vacances en Afrique, voilà, en Casamance, oui. Enfin.
Mais finalement, c'est Paris qui vous convient le mieux?
Autour du Parc, d'abord, ouais. J'y suis né à Paris. Ouais. Je suis né dans le 14e, la patrie de Michel Audiard. Mais c'est vrai que maintenant, je me plais autour du Parc.
Voilà, avec Laure.
Avec Laure et mes filles et mes enfants, bien
et
sûr.
Et vos filles et vos enfants. Dans un monde qui vous plaît, vous aimez notre époque
Pas du tout.
Pas du tout.
Mais je viendrai pour une prochaine émission.
On abordera le sujet.
Pour ça, oui.
Ça
oui.
Peut être intéressant.
Et croyez-moi, il y a de quoi dire.
Il y a de quoi dire.
Si vous voulez, on n'écoutera même pas de musique. Si, de la musique classique, on écoutera parce qu'on n'a pas écouté la musique classique que j'aime aujourd'hui. La prochaine fois, j'aimerai avec mes disques classiques.
Je veux dire aussi, Didier Barbelivien, avant qu'on se quitte, que en même temps que ce livre, vous sortez un best-of de 3 CD hein, qui sort chez Sony, et dans lequel il y a des chansons connues, puis des chansons beaucoup moins connues aussi. C'est vous qui avez fait le choix ?
Oui, pour moi, c'est pareil. C'est l'avantage de découvrir. Je suis d'une culture, d'une génération où, quand j'achetais un album de Léo Ferré, je l'achetais pour écouter, par exemple, quand il faisait Amour Anarchie, Le Chien. Ouais. Mais je savais pas que dedans il y avait Poète Vos Papiers, qu'il y avait Petite, ouais, qu'il y avait sûr, tout ouais. ça. Un jour en achetant La Solitude, l'album La Solitude, je découvre bien ton sûr. Style, tu ne bien dis sûr. Jamais rien. Bon, des chansons immenses, quoi.
C'était immense. La magie de ce qu'on appelait les albums, justement.
Bah oui, parce c'est pour ça qu'on
connaissait que le premier titre de la première face, en fait.
Bah oui. Ouais. Et je parle pas de ceux de Julien Clerc, les 3 premiers, avec ouais. Jean-Marc Roberts, sont les, jusqu'à user le saphir, on écoutait ça.
Voilà. Et parmi toutes ces chansons qui figurent dans ces 3 CD du best-of Didier et Barbelivien, on va se quitter avec une chanson récente, d'ailleurs de 2016, qui s'intitule « Les princes s'endorment ». Un mot peut-être
Oui, c'est un peu ce que je pense de notre profession, ouais. comme ça, d'une manière générale, avec un peu de dérision, un peu d'humour, un peu de vacherie, mais beaucoup de tendresse.
Voilà. Bah, merci Didier Barbelivien, je crois que là... Il n'y a rien à ajouter.
Merci de m'avoir reçu. Et je reviendrai.
À bientôt.
Le carrousel des Mercedes dans la brume de Los Angeles. Lipstick pour une ultime caresse. Lassés de guitare électrique, posés sur des bandes magnétiques, leur voix envoie des SOS. Si Cendrillon est en pleine forme, dans son château du Pacifique, usé par les barbituriques. Dites-vous que là-bas, les princes s'endorment. Ils ont beau être beaux, oui, vêtus de leur mélodie, les enfants du paradis, partis sans avoir tout dit. Ils ont beau être beaux, oui, Michael, Janice et Jimmy, Otis, Brian ou Amy. Moi j'aime les mots des maudits. Swinging London, je t'imagine sur fréquence radio Caroline. Ici chacun son héroïne. Perdu au bout de Long Island, un guitare héros se demande qui joue sur la musique du film. Si Cendrillon est en pleine forme, dans son château du Pacifique, usé par les barbituriques. Là-bas, les princes s'endorment. Ils ont beau être beaux, oui, vêtus de leur mélodie, les enfants du paradis, partis sans avoir tout dit. Ils ont beau être beaux.
Les princes s'endorment, une chanson de Didier Barbelivien qui était donc mon invité ce matin. Vous pouvez la retrouver dans le disque qui vient de paraître Best of 3 CD chez Sony Music. Et puis je vous recommande beaucoup, vous l'avez compris, le livre de Didier Barbelivien, Pleure pas nostalgie, paru aux éditions Albin Michel.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour terminer l'émission, bah justement, je vais essayer de vous étonner avec la complicité de la merveilleuse discothèque de Radio France que je ne me lasse pas d'explorer grâce à toute son équipe et notamment à Romain Couturier. Et je m'intéresse beaucoup en ce moment au compositeur Maurice Thirier, qu'on connaît surtout pour ses musiques de films comme Les Enfants du Paradis ou Les Visiteurs du Soir, mais qui était un compositeur à part entière, élève de Charles Koechlin. Et il a notamment écrit beaucoup de musiques de ballet, en particulier avec Roland Petit, à cette grande époque où Roland Petit relançait un peu l'esprit des ballets russes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont notamment donné ensemble un ballet qui s'intitule « L'œuf à la coque », créé à Londres, représenté plus de 700 fois à partir de sa création en 1949. Et je suis tombé donc sur un enregistrement rare chez Columbia de ce ballet « L'œuf à la coque » de Maurice Thirier. C'est un enregistrement de 1958 avec l'orchestre Colonne sous la direction de Georges Tsipine. On écoute deux très jolis extraits, Boîte à musique et Danse incantatoire. Thank you. L'œuf à la coque, un ballet de Maurice Thirier. Et pour nous quitter, eh bien, nous allons rester avec la musique de ballet et l'extraordinaire pas de trois pour chœur et orchestre du Guillaume Tell de Rossini.
Thank you.
Rossini alias Le Bon Dieu dans cet extraordinaire Pas de Troie, extrait du troisième acte de son opéra français Guillaume Tell, un ballet donc pour chœur et orchestre, trop rarement enregistré, mais magnifiquement enregistré pour le coup par l'excellent Riccardo Chailly et son orchestre avec l'Ambrosian Chœur. J'adore cette musique, je vous la repasserai encore, je vous le promets. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique soit de Boukorsa et Emmanuel Dupuis, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Macha Merrill, avec laquelle on évoquera entre autres bien sûr Michel Legrand. Je la recevrai samedi prochain avec beaucoup de joie. Pour l'instant, le week-end continue sur France Musique en compagnie de Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.